Le journal Claire Viget.
Bonjour, un nouveau coup de théâtre dans le dossier de la H18 à la Chaux-de-Fonds. La Cour de droit public du tribunal fédéral a accordé lundi, dans une ordonnance, un effet suspensif aux opposants sur la construction du tunnel des Arêtes. Les travaux risquent encore de prendre du retard. Un nouveau livre dédié à l'absinthe, il est sorti en librairie récemment. Il est illustré par la photographe vallonnière Tamara Berger. Une motion demandant de débloquer 5 milliards de francs pour l'Ukraine a été rejetée par le Parlement. La gauche et les Verts libéraux évoquent un mauvais signal. La droite et le centre soulignent ce qui a déjà été mis sur pied, remettent en cause l'aspect formel du texte. Du soleil et jusqu'à 27 degrés dans les thermomètres, les quelques formations nuageuses qui bourgeonnent ça et là dans notre ciel devraient devenir imposantes, voire même menaçantes au fil des heures. Quelques averses orageuses ne sont pas exclues dans le courant de l'après-midi et en soirée. Le dossier de la H18 connaît un nouveau tournant. La Cour de droit public du tribunal fédéral a rendu lundi son verdict concernant la demande d'effet suspensif des opposants au projet de contournement de la Chaux-de-Fonds. Elle devait notamment se prononcer sur le premier coup de pioche du tunnel des Arêtes, Damien Piscopiello.
Oui, Claire Viget, les juges ont offert une victoire aux opposants. Dans l'ordonnance que nous avons pu consulter ce matin, les juges ont octroyé l'effet suspensif sur la réalisation du tunnel. Le tribunal fédéral a été convaincu par les griefs déposés par les opposants. Ceux-ci avaient mis en avant l'augmentation du trafic, les problèmes géologiques ou encore l'existence de zones protégées dans la région. Les juges n'ont par contre pas accordé l'effet suspensif concernant les travaux de requalification de la rue de l'Hôtel de Ville. Pour eux, les parcelles des opposants sont suffisamment éloignés du tronçon. De plus, pour le tribunal, il y a un intérêt public important à la réalisation de ces travaux, d'autant qu'il existe un risque que le canton perde la subvention fédérale d'1 million de francs. Enfin, la Cour juge que ces travaux doivent être réalisés indépendamment de ceux liés au contournement est de la Chaux-de-Fonds.
Damien, concrètement, quel impact cette décision va avoir sur les travaux ?
Eh bien, Claire, c'est la grande question. Combien d'années de retard vont venir s'ajouter au projet ? Est-ce que les travaux sur la rue de l'Hôtel de Ville vont débuter très rapidement? Quelle sera la réaction des autorités cantonales à ce nouveau rebondissement? Toutes ces interrogations, nous les avons soumises ce matin au Conseil d'État. Il ne nous a pour l'heure pas encore répondu. Du côté des opposants, par la voix de leur avocat Frédéric Hénard, on se réjouit de la décision du tribunal fédéral. Il nous a confié que les opposants étaient soulagés de voir les juges aller dans leur sens.
Merci Damien, et toutes les informations sur cette décision du TF relatif au contournement est de la Chaux-de-Fonds sont à retrouver sur rtn.ch. Le Collège des Parcs à Neuchâtel placé sous protection. Le canton a été sensible aux fortes composantes Einmachtil et aux éléments Art Nouveau du bâtiment. Le Conseil d'État a par ailleurs accordé une subvention provisoire de près de 300 000 francs à la ville de Neuchâtel pour les travaux extérieurs et intérieurs du collège. Qui mieux qu'une vallonnière pour illustrer un livre dédié à l'absinthe ? Un nouvel ouvrage dédié à la légendaire boisson a fait récemment son apparition dans les rayons des librairies. Intitulé « Absinthe, voyage au pays de la fée verte », il est écrit par la lausannoise Tania Brasseur et illustré par Tamara Berger, une photographe du Val de Travers. L'ouvrage se veut pour monsieur et madame tout le monde. Il vulgarise l'histoire de la plante et du breuvage. Il dresse aussi le portrait de plusieurs distillateurs de la région. Pour sa prise d'image, Tamara Berger a répondu aux besoins de l'autrice, mais en jouissant d'une certaine liberté, elle nous raconte comment s'est organisé son travail sur le terrain.
Alors, il y avait déjà quelques points historiques ou bien de lieux, de distillateurs qui étaient décidés qu'on allait parler. Donc, en fait, je savais que ça, c'était déjà certaines photos que je savais qu'il fallait produire. Et ensuite, Tania, elle a vraiment fait un grand voyage au Val de Travers pour rencontrer les gens, pour rédiger. Puis, on se téléphonait régulièrement, une fois par semaine. Elle m'apprenait ce qu'elle avait appris, ce qu'elle aimerait mettre dans le livre. Et j'avais totalement une liberté, en fait, pour aller prendre mes photos, en tout cas pour tout ce qui était paysage. Et puis après, les distillateurs, on a vraiment travaillé main dans la main pour que j'aille dans les bonnes distilleries faire des images.
Quelle a été la réflexion qui finalement vous a conduit aux différents lieux, endroits que vous avez visités ?
Alors au départ, je voulais des photos, peut-être les faire au flash, en tout cas des photos lumineuses. Et après, j'ai fait un travail un peu de brainstorming sur le produit. Et je me suis dit, c'est un produit qui a une grande histoire. Il y a beaucoup de gens qui ont quand même souffert avant la légalisation. Donc, je me suis dit, mais en fait, je vais faire déjà tout en lumière naturelle. Je ne vais pas prendre une cave en photo super lumineuse quand ça devait être le plus sombre possible pour pas qu'elle soit vue il y a plusieurs années. Donc voilà, j'ai vraiment tout travaillé en lumière naturelle. Et j'ai vraiment voulu capturer vraiment l'essence même et pas retoucher les images. Enfin, bien évidemment, elles sont retouchées, mais vraiment pas avoir des images lumineuses. Je voulais vraiment garder l'essence même du produit et de cette histoire.
Tamara Berger qui répondait à David Sanchez, la vallonnière, ainsi que l'écrivaine Tania Brasseur seront en dédicace samedi durant l'absinthe. En fait, c'est à moitié. Un homme muni d'une arme blanche a semé la terreur ce matin dans un parc sur les bords du lac d'Annecy. Il a blessé 5 personnes, dont 4 enfants très bas âge, avant d'être interpellé par la police. 3 des victimes ont un pronostic vital engagé, selon une source proche du dossier. Le caractère terroriste ou non de l'attaque est en cours d'évaluation, selon une source proche du dossier. Le réchauffement causé par l'humanité atteint un rythme inédit, plus de 0,2 degrés par décennie, selon une étude internationale publiée aujourd'hui. Elle a été menée par une 50aine de chercheurs de renom qui s'appuient sur les méthodes des experts du climat du GIEC. En Suisse, le Parlement refuse de débloquer 5 milliards de francs pour l'Ukraine. Le Conseil national a rejeté ce matin par 105 voix contre 86 une motion pour financer un plan de soutien. Le texte voulait engager la Confédération sur le long terme pour l'aide humanitaire et la reconstruction de l'Ukraine. Mais la droite et le centre n'en ont pas voulu. Les explications du conseiller national libéral radical Laurent Verly.
Très clairement, nous sommes en faveur d'une aide à l'Ukraine et en particulier d'une aide à la reconstruction. Le conseiller fédéral Ignacio Cassis a mis en place la conférence de Lugano, la première conférence qui a d'ores et déjà pensé à l'après, qui va maintenant être suivie d'une deuxième conférence à Londres dans quelques jours. La question n'est pas est-ce qu'on veut ou pas aider l'Ukraine. La question, elle est plus à penser sur l'aspect formel, comment cette proposition venait. Elle venait sans aucun détail de précision chiffrée et sortait un chiffre de 5 milliards, dont les initiants eux-mêmes évoquaient qu'ils pensaient 5 milliards parce que la Norvège a mis 7 milliards. Mais c'est pas, sans vouloir du tout dénigrer des collègues, c'est pas sérieux, c'est pas comme ça qu'on fait un processus.
La gauche et les Verts libéraux ont voté pour soutenir l'Ukraine avec ce crédit de 5 milliards de francs. Ils sont déçus de la position de la majorité et pensent qu'il s'agit d'un mauvais signal envoyé à l'Ukraine. Nicolas Valder, conseiller national vert.
Non, c'est pas un bon signal. C'est pas non plus un bon signal pour la Suisse. Je rappelle quand même que la Suisse est aujourd'hui très critiquée pour sa neutralité, très critiquée justement pour sa frilosité aussi. Et aujourd'hui, c'est aussi une manière de dire au monde que la neutralité ne veut pas dire ne rien faire. Ça ne veut pas dire se défausser de ses responsabilités, mais ça veut dire s'engager pour le droit international humanitaire, s'engager pour l'aide aux civils. Et malheureusement, je pense que c'est vraiment un acte manqué. J'espère, parce que la même proposition a été déposée au Conseil des États, j'espère que le Conseil des États la traitera différemment et que là-bas, une majorité la soutiendra pour qu'on puisse en rediscuter.
Il y aura bien une commission d'enquête parlementaire sur la débâcle de Crédit Suisse. Le Conseil des États l'a approuvé ce matin par 37 voix contre 5. Le National a donné son feu vert hier à l'unanimité. Le Conseil fédéral était aussi favorable à une CEP. Les vapoteuses n'échapperont pas à l'impôt. Le Conseil national a adopté ce matin par 119 voix contre 42 ce projet gouvernemental. La facture sera moins élevée que pour les cigarettes traditionnelles. La gauche a échoué à introduire un modèle d'imposition plus sévère. Et à Berne, toujours un taux de TVA réduit pour les produits d'hygiène menstruelle. Le Parlement a bouclé ce matin la révision de la loi complexe sur la TVA touchant de nombreux domaines. Les produits d'hygiène menstruelle bénéficieront à l'avenir d'un taux de TVA réduit de 2,5% contre 7,7% actuellement. Autre mesure, les services d'aide et de soins à domicile privés seront sur un pied d'égalité avec ceux sans but lucratif. Ils seront exonérés de TVA. Et puis en 2022, crues, laves torrentielles, glissements de terrain, chutes de pierres et autres éboulements ont coûté près de 45 millions de francs en Suisse. C'est 10 fois moins qu'en 2021. L'Institut fédéral des recherches sur la forêt, la neige et le paysage explique ce relativement faible montant par les longues périodes sans précipitation, mais aussi par l'absence d'événements majeurs.
Midi 24 sur RTN. Sport.
Les courses de Bienne peinent à retrouver leur vigueur d'avant Covid. Moins de 2500 concurrents s'élanceront sur les différents tracés de la manifestation ce week-end. Ils étaient plus de 5000 il y a 4 ans. La mythique course à pied des 100 km connaît le même sort. 650 athlètes seront au départ demain soir à la Tissot Arena, un chiffre en très légère augmentation par rapport aux 633 participants de l'an dernier. Le président des courses de Bienne, Martin Reber.
Si on pense qu'on a 600 bénévoles pour préparer cette course et puis on a 650 coureurs, ça fait un petit peu mal. Merci pour tous ces bénévoles qui travaillent pour nous. Mais quand même, le chiffre qui est à l'augmentation. Alors, on pourrait m'imaginer qu'il y a encore quelques-uns qui s'inscrivent encore, mais pour les 100 km, on se prépare. Au principe, on ne s'inscrit pas la dernière minute.
Dans le passé, c'était quand même un énorme événement, ces 100 km de Bienne, avec souvent, ces derniers temps, environ 1000 participants. On n'y arrive plus, décidément. Comment vous l'expliquez ?
L'explication qui pourrait être là-dedans, c'est 100 km courir. Que courir. Peut-être c'est ça le problème. Si on regarde, il y a des courses avec les obstacles, ainsi de suite. Puis ça, on voit que ça fonctionne assez bien. Est-ce que les gens, ils veulent une difficulté de plus? On est en train de réfléchir, on est en train de chercher quelle dimension et puis qu'est-ce qu'il faut faire, comment il faut le faire. On a quelque chose dans notre tête, on regarde qu'est-ce qu'on met pour l'année prochaine.
Des propos recueillis par notre confrère de Canal 3, Lyndon Viglino. Votre prochain rendez-vous avec l'information, c'est à 13h. Très bon après-midi à tous.